Vous écoutez, on lit pour vous.
Deux bâtons dans les roues de la mobilité électrique, un texte de Philippe Mercure, paru le 16 septembre 2024 dans la presse. Cling-clang, nos élus viennent de planter coup sur coup deux bâtons dans les roues de ceux qui aspirent à se déplacer de manière économique et écologique. Et tant pis pour ceux qui culbutent par-dessus leur guidon. Le premier bâton a été tendu par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, avec son arrêté ministériel venant interdire plusieurs types de motocyclettes et cyclomoteurs électriques sur les routes du Québec. Le deuxième est venu du gouvernement Trudeau sous la forme d'une surtaxe de 100% sur les importations de véhicules électriques faits en Chine. Dans les deux cas, on peut trouver des raisons pour justifier ces politiques, mais dans les deux cas, il y a également d'immenses effets pervers. Ces mesures retarderont considérablement le virage vers la mobilité durable. Elles s'attaquent aussi directement au portefeuille des Québécois en les privant d'options économiques en transport, leur deuxième poste de dépense en importance après le logement, mais avant l'alimentation. À vous lire, cher lecteur, je constate que je ne suis pas le seul à trouver que ça n'a pas de sens. L'arrêté ministériel de la ministre Geneviève Guilbeault, en particulier, a suscité un volume de commentaires comme on en reçoit rarement à la presse. Ça ne dérougit pas depuis des semaines. Je suis furieux contre ce gouvernement dépassé qui prend sa décision a posteriori après que des milliers de jeunes ont dépensé 2 500 dans ce type de véhicule pour ne pas engorger les routes et être en phase avec les enjeux environnementaux et leur petit budget de déplacement, nous écrit Dave. J'ai acheté honnêtement et légalement en 2022 un scooter Gio Royal, 2 300 taxes incluses, afin de pouvoir me déplacer à l'énergie verte sur de courtes distances. Et deux ans plus tard, on veut me le faire jeter? Vraiment? S'indigne José. Si c'est illégal d'en importer, comment cela se fait-il qu'il était si facile d'en acheter? Le gouvernement et la SAAC frappent le dernier maillon de la chaîne, l'utilisateur. Mon scooter me permettait de faire mes courses dans le quartier, de me déplacer. Donnez-moi la chance de l'immatriculer et de l'utiliser jusqu'à sa fin de vie utile, implore Claire. J'ai beaucoup de peine car j'ai un scooter électrique et je le conduis selon les lois. Je promène mes petites filles qui adorent ces promenades, sans bruit. Je serai prête à l'immatriculer. Sinon, que vais-je faire de celui-ci? Le mettre au dépotoir? Nous écrit une grand-maman. Ces gens ont raison d'être en colère. Ils ont fait un choix de transport en fonction de leur budget, de leur valeur environnementale ou d'une combinaison des deux. Ce faisant, il rame exactement dans la direction où nous voulons aller collectivement. Leur choix contribue à diminuer la congestion routière, les émissions de gaz à effet de serre, le bruit, le besoin en espace de stationnement, la pollution de l'air. Ça commence à faire plusieurs bénéfices. Nos gouvernements devraient les encourager, pas le contraire. On s'entend. Les bolides filant à 50 km/h n'ont rien à faire sur les pistes cyclables, encore moins sur les trottoirs. Il est aussi clair que le code de la route n'est pas une suggestion qu'on peut ignorer en la balayant vers la gauche, comme sur Tinder. Mais s'il y a un ménage à faire, il est dans les comportements, pas dans les types de véhicules. L'immatriculation permettrait de recenser tous les véhicules et leurs propriétaires et pourrait tempérer favorablement la façon dont certains conducteurs utilisent cavalièrement leur monture, souligne avec justesse une autre lectrice, Agnès Bonin. La SAC nous dit que l'immatriculation est impossible parce que plusieurs de ces véhicules n'ont pas la certification de conformité aux normes de Transport Canada. Désolée de le dire comme ça, mais voilà une réponse de fonctionnaire. Si certains de ces véhicules sont réellement dangereux, qu'on nous explique pourquoi, qu'on les bannisse et qu'on laisse rouler les autres. En attendant, il est hautement ironique de constater qu'on ne se demande jamais si un VUS de 2 tonnes capable d'atteindre 210 km/h est dangereux, alors qu'on s'inquiète pour un vélo électrique qui peut péniblement se hisser à 45 km/h quand le vent souffle du bon bord. Il est impératif de mettre en place un cadre permettant à ceux qui ont acheté des motocyclettes et des cyclomoteurs électriques de les utiliser. La SAAC affirme, par ailleurs, avoir reçu 470 commentaires à la suite de l'arrêté ministériel et assure qu'ils seront pris en compte. L'autre décision qui fera mal à la mobilité durable, c'est l'imposition par le gouvernement Trudeau d'une surtaxe de 100% sur les voitures électriques construites en Chine, ce qui inclut des marques comme Tesla et Polestar. Ce dossier est beaucoup plus complexe, mais le premier ministre Justin Trudeau n'a pas caché que l'un des objectifs est de protéger la filière batterie qu'on tente de créer au Canada. On savait que l'aventure de Northvolt et compagnie allait nous coûter cher. Mais on n'avait pas réalisé à quel point. Cette décision retardera en effet la baisse de prix des voitures électriques, qui reste inabordable pour un grand nombre de Canadiens. Une bien mauvaise décision du gouvernement canadien qui, au lieu de penser aux bénéfices de ses concitoyens et à l'environnement, a préféré se coller à nos voisins du Sud pour des raisons strictement politiques, nous écrit Alain. Plusieurs experts ont souligné que le Canada aurait pu faire ce qu'on appelle des ajustements carbone à la frontière afin de taxer la pollution générée par la construction des véhicules chinois et ne pas désavantager les constructeurs plus verts. La lutte contre les changements climatiques représente le plus gros défi de notre époque. Au Québec, le secteur des transports est notre principal contributeur de gaz à effet de serre. Que nos élus n'aient pas réussi à faire diminuer les émissions du secteur, plus 21% depuis 1990, est déjà déplorable. Mais qu'ils bloquent délibérément certaines solutions sans sembler se préoccuper des conséquences sur les citoyens et sur l'environnement, dépasse l'entendement. C'était « Deux bâtons dans les roues de la mobilité électrique », un texte de Philippe Mercure, paru le 16 septembre 2024 dans La Presse.
Air marine non protégée. Un texte de Maxime Bilodeau, paru le 22 août 2024 dans Québec Science. La biodiversité est mal préservée dans la majorité des aires marines protégées. Le chiffre est choquant. À peine le tiers des aires marines protégées, en MP, dans le monde, remplissent réellement leur rôle de conservation de la biodiversité et des services écosystémiques associés, comme la captation du carbone de l'atmosphère. A contrario, un autre tiers de ces zones maritimes sont plutôt le théâtre d'activités humaines destructrices pour les écosystèmes marins, tels que la pêche industrielle, l'aquaculture ou l'exploitation minière. Quant au dernier tiers, il se situe un peu entre les deux, c'est-à-dire que les activités qui y ont cours ne sont pas nécessairement incompatibles avec la conservation de la nature. C'est ce que révèle une étude parue en mai 2024 dans la revue « Conservation Letters ». pour arriver à cette conclusion. L'équipe de recherche internationale a d'abord analysé les 100 plus grandes AMP de la planète, soit près de 90 % de la surface des zones protégées. Dans un premier temps, elle a scruté à la loupe la documentation pour chacune, comme la désignation légale, les documents réglementaires et le plan de gestion. Puis, elle a consulté la littérature scientifique et d'autres rapports qui détaillent les activités humaines qui s'y déroulent dans le but de les catégoriser selon leur type, leur intensité, etc. Leurs évaluations ont même fait l'objet de vérifications indépendantes par des spécialistes connaissant bien ces AMP. Leur constat? Un quart des réserves marines sont même totalement dépourvues de réglementation et de gestion. L'étude démontre, en outre, que les grandes AMP se situent surtout dans des zones reculées et autour de territoires d'outre-mer où il est plus facile de les établir, mais où la menace des activités humaines est plus faible. Les auteurs et autrices plaident d'ailleurs pour une meilleure répartition géographique des AMP, de même que pour une exclusion de celles dont le niveau de protection est inconnu ou insuffisant. Il en va de l'atteinte de l'objectif 30 par 30 fixé par les Nations Unies, soit de protéger au moins 30 % des océans d'ici 2030. Aujourd'hui, moins de 3 % de ces territoires feraient l'objet d'une protection haute ou complète. Des parcs de façade. Ces résultats surprennent peu Daniel Pouli, professeur à l'Institut pour les océans et les pêches de l'Université de la Colombie-Britannique. Nous sommes arrivés à des conclusions similaires pas plus tard qu'en 2023, souligne-t-il, en référence à un article qu'il a co-signé dans Marine Policy. Cette étude sur le niveau d'intensité des pêches dans les AMP concluait que 27 % d'entre elles sont probablement des parcs sur papier, c'est-à-dire des AMP légalement désignés, mais inefficaces. Le Canada n'échappe pas à ces constats. Lui qui dit assurer la protection de près de 15 % de ses zones marines et côtières, un chiffre vivement contesté par des organismes comme la Société pour la nature et les parcs du Canada. D'ailleurs, ces deux plus grandes AMP, celles du Tuvajuituk et de Taluruthiup, Imanga, sont situées dans l'Arctique où l'activité humaine est minime. Cela dit, il fait mieux que d'autres pays comme la France, propriétaire de la deuxième aire maritime au monde, en raison de ses territoires d'outre-mer, qui multiplient les parcs sur papier, déplore Daniel Pouli, lui-même citoyen français. Même s'il est un critique acerbe de la manière dont sont gérées les AMP, ce spécialiste des ressources marines ne rejette pas a priori le concept. Une AMP, lorsqu'elle est gérée sérieusement, peut permettre à la biomasse de croître sans être victime de surpêche, explique Daniel Pouli. À long terme, les poissons, devenus plus nombreux, migrent en périphérie de ces zones, ce qui a pour effet d'augmenter les prix aux alentours. Les pêcheurs sont les premiers à croire que les AMP sont nuisibles à leurs intérêts. Ils ont tout faux. Ainsi, d'après une étude publiée l'année dernière dans Science Advances, la création du parc national Rivilla-Jijego à l'ouest du Mexique et l'interdiction stricte d'y pêcher n'ont pas nui à la pêche industrielle de ce pays. Et au Québec? Le Québec compte quelques AMP, lesquelles totalisent environ 10 % du territoire marin et côtier de la province. Parmi elles figure le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, régulièrement cité comme un modèle grâce aux mesures prises pour protéger les bélugas. Pourtant, cette AMP fait bien piètre figure dans l'Atlas de la protection marine, une base de données mondiale élaborée par le Marine Conservation Institute, une organisation à but non lucratif consacrée à la conservation des océans. Si l'on se fie à cette évaluation, cette AMP est considérée comme minimalement protégée et incompatible avec la conservation de la biodiversité. De là à la qualifier de « parc sur papier », c'est le pas que Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, refuse de franchir. Les bélugas sont mieux avec le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent que sans, soutient-il. Depuis sa création en 1998, de réelles mesures de protection de l'espèce ont été mises en place par les autorités, comme la fermeture de certaines zones à la navigation lors de la saison estivale. Par ses travaux, le GREM a contribué à l'établissement de cet AMP ainsi qu'à l'élaboration des réglementations associées. Générer des données probantes en concertation avec le milieu fait d'ailleurs partie des caractéristiques distinctives d'une AMP bien gérée, estime Robert Michaud. C'est la manière de justifier les sacrifices, indique celui qui trouve malheureuse la course à laquelle se livrent plusieurs États pour atteindre en apparence leur cible de protection de la biodiversité. Cela alimente notre cynisme à tous et à toutes. C'était « Aire marine non protégée », un texte de Maxime Bilodeau paru le 22 août 2024 dans Québec Science.
La petite histoire de Monsieur Patate, un texte de Philippe Côté-Giguère, paru le 19 septembre 2023 dans Urbania. Comment est née l'idée de s'inspirer d'un féculent riche en glucides pour en faire un objet de plastique avec des membres? Quand est-ce que Madame Patate s'est jointe au party? Puis est-ce que c'est vrai que Monsieur Patate est devenu non-binaire? Voici la petite histoire de cette figurine emblématique. 1949. Une bonne idée. C'est l'inventeur américain George Lerner qui a eu l'idée, alors qu'il créait des personnages pour ses sœurs, d'une figurine que les enfants pourraient construire à l'aide de différentes pièces, comme des bras, des yeux, un chapeau et une pipe, pouvant être piquées sur une patate, une vraie. 1950. L'an départ. Comme la proposition de George n'intéresse pas les fabricants de jouets, il vend les droits sur son concept à une compagnie de céréales. Celle-ci distribue les morceaux dans ses boîtes. C'est un peu l'équivalent du CD-ROM du jeu Roller Coaster Tycoon qu'on trouvait dans les emballages de Corn Pops en 2001. 1951. Sa part. George Lerner rencontre les frères Assenfeld, cofondateurs d'une entreprise qui deviendra Hasbro en 1968. Intéressés par son flash, les deux entrepreneurs achètent les droits et commercialisent le jouet. Le paquet comprenait à cette époque les différentes pièces ainsi qu'une tête en styromousse qui puait pas mal moins qu'une vieille patate oubliée dans un garde-robe d'enfant pendant 2 mois. 1952. Le gros succès. La toute première publicité américaine destinée aux enfants met en vedette Monsieur Patate qui se promène en train. Le stratagème permet à l'entreprise de réaliser des revenus de vente $1 million cette année-là. Une petite pensée pour tous ces parents des années 50 qui ont dû endurer une crise au magasin jusqu'à ce qu'ils cèdent. 1953. Madame Patate. Suite à ce grand succès commercial, Madame Patate, les enfants du couple, Yam et Spud, ainsi que quelques amis de la progéniture font leur apparition, en plus d'une voiture, d'un bateau et d'une cuisine. Manquait juste le chalet dans le Maine et le rêve américain était complété. 1964. L'ère plastique. Des lois entrent en vigueur aux États-Unis afin de protéger les consommateurs, dont les enfants, contre des biens et services potentiellement dangereux. Comme les morceaux des jouets de la marque comprenaient un bout pointu pouvant être une cause de blessure, Hasbro doit les modifier. C'est donc à partir de 1964 que la fameuse tête en plastique a fait son apparition au grand dam des fans de styromousse en forme de patate. 1986, adieu la pipe. Au fil des années, M. Patate a joué le rôle de porte-parole de nombreuses causes. En 1986, il devient la figurine emblématique du mouvement anti-tabac en délaissant la pipe qui faisait partie de ses accessoires depuis ses débuts. 1992. En forme. 6 ans plus tard, M. Patate appuie une campagne visant à encourager l'activité physique aux États-Unis en renonçant à son titre de « couch potato ». Oui, on est d'accord, ça mérite un prix Nobel en marketing. 1996, au cinéma. Depuis ce temps, de multiples versions de M. Patate au goût du jour ont été mises en vente, comme à l'occasion des sorties des films Star Wars, Indiana Jones et Iron Man. Sa popularité connaît un regain quand le premier film de la série Histoire de jouets prend l'affiche, alors qu'il occupe un rôle secondaire d'importance, un acteur né. 2021, Patate moderne. En février, Hasbro annonce que M. Patate va perdre son titre de « Monsieur ». Scandale. Le fabricant de jouets précise que ce n'est que la marque et le logo qui ne seront plus genrés afin de promouvoir l'égalité et l'inclusion. Les figurines, elles, seront encore et toujours Monsieur et Madame Patate. Trop tard, les chemises étaient déjà déchirées, et on ne parle pas de celles de Monsieur Patate, il n'en a jamais eu. C'était La petite histoire de Monsieur Patate, un texte de Philippe Côté-Giguère, paru le 19 septembre 2023 dans Urbania.
Micah McLaurin, de star du classique à popstar. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Micah McLaurin avait déjà une carrière bien entamée dans le monde de la musique classique avant de se lancer dans la pop. Le chanteur et pianiste américain, qui est passé par la très prestigieuse école Juilliard, a multiplié dans la dernière décennie les honneurs et les apparitions auprès de différents festivals et orchestres, dont l'Orchestre de Philadelphie. L'appel de la pop a toutefois mené Micah McLaurin à sortir des morceaux modernes et énergiques, bien que parfois teintés de piano, au cours des dernières années, dont les chansons « Don't Give Up on Love »,« Let's Go to France » et « Call Me ». Le tout bien souvent accompagné d'un visuel épuré et de vidéos éclatées. As-tu toujours su que tu allais faire de la pop? Comment es-tu passé du classique à la pop? Je pense qu'il y avait une pulsion en moi qui me poussait à le faire et je me le refusais en quelque sorte, parce qu'en musique classique, on dit toujours « Faites une chose et c'est tout ce que vous pouvez faire si vous voulez la faire vraiment bien. » Et j'ai toujours voulu être compositeur depuis mon plus jeune âge. Mais je me disais, ellipse, je ne serai pas le prochain Chopin. Alors à quoi bon? Alors je me suis contenté de jouer la musique des autres. Et puis je me suis dit, est-ce que je vais être le prochain Lady Gaga? Probablement pas. Alors je me suis dit, pourquoi s'embêter avec la pop? Mais lorsque j'ai commencé à arranger des chansons pop au piano, je suis devenu de plus en plus curieux. Je me suis dit qu'il fallait que j'écrive au moins une chanson pop. Mon producteur m'a organisé une séance de travail. J'ai trouvé cela très amusant. J'ai adoré le processus. J'ai voulu en faire de plus en plus et je me suis dit, voyons jusqu'où je peux aller. Lorsque j'ai écrit la chanson « Don't Give Up on Love » et que je l'ai entendue en studio, j'ai eu envie de continuer à faire de la pop, car j'ai ressenti un profond changement émotionnel à l'intérieur de mon corps. En faisant un virage vers la pop, sens-tu que tu as en quelque sorte renié le style classique? Je ne dirais pas que je le rejette, le style classique. Je dirais plutôt que je l'enrichis. Je ne me débarrasse de rien de ce que j'ai fait. Je ne me débarrasse pas du piano. Je ne fais que l'enrichir. Et je pense que cela améliore l'ensemble. Cela donne une perspective différente. ça fait apprécier davantage le style classique parce qu'on le fait par choix plutôt que parce que c'est la seule chose que l'on connaisse. La mode et le souci de l'esthétisme semblent être une partie importante de ton offre artistique. D'où cela vient-il? Quelles sont tes inspirations? Je pense que cela vient de plusieurs choses. Je pense que cela s'est développé pour la première fois lorsque j'ai quitté Charleston, ma ville natale, en Caroline du Sud. J'ai déménagé à Philadelphie et j'ai commencé à magasiner. J'allais dans les magasins et je voyais des choses étincelantes chez Versace. Mon cœur battait fort, et c'est à partir de là que tout s'est développé. Je pense que c'était une façon de m'exprimer qui me semblait sûre, sans risquer de montrer trop de choses à l'intérieur. C'était une façon d'exprimer ce qui est à l'intérieur à l'extérieur. Je pense que j'ai commencé à le faire en réaction à la façon dont j'ai grandi, qui était très conservatrice. Ensuite, j'ai été influencé par des artistes comme Lady Gaga, qui m'a obsédé à l'adolescence, et Liberace, que je n'ai connu que plus tard. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, nous sommes liés parce que j'ai toujours aimé les mêmes choses que lui et que les gens m'ont dit « Oh, c'est comme Liberace ». Il n'arrêtait pas de prononcer son nom. J'ai donc commencé à regarder ses vidéos et j'ai comme eu l'impression d'être lui. Mon rapport avec la mode et l'esthétisme a évolué avec le temps. Il a évolué lorsque j'ai déménagé à New York et que j'ai travaillé avec différents créateurs. Cela fait vraiment partie de mon expression artistique. Malgré les changements majeurs des dernières années, sens-tu qu'il manque encore de représentation LGBTQ+ masculine en musique? Je pense qu'il y a eu une progression, mais je pense que les gays en particulier idolâtrent les icônes féminines et je ne sais pas quelle en est la raison psychologique, mais je dirais que je trouve qu'il y a une sorte de manque d'icônes gays masculines. Je ne sais pas si c'est correct de dire ça. Je pense que c'est en train de changer et qu'il y a beaucoup plus de représentation dans les médias. Et la culture adopte en quelque sorte la culture gay et le gay slang dans le mainstream. En vue des nombreux singles que tu as sortis, comptes-tu sortir un album? Je travaille sur beaucoup de musique et je ne sais pas encore si ce sera un EP, un album ou juste des singles. Je pense que c'est un peu comme si l'histoire était encore en cours. Donc, je n'ai pas encore réalisé ce qu'elle allait être. Mais j'ai beaucoup de musique à venir. C'était Micah McLaurin, de star du classique à pop star. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue.